France Info.
Et bienvenue dans l'émission politique de France Info. Bienvenue sur le canal 27 de la TNT. Si vous nous rejoignez, bonjour Jean-Michel Apathy.
Bonjour Fabienne.
Gilles Bornstein est là aussi avec Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est porte-parole du gouvernement, ministre de l'Agriculture.
Bonjour Stéphane Le Foll.
Bonjour.
Nous allons parler de l'élection présidentielle et donc de la primaire des socialistes qui va se dérouler dans 3 semaines maintenant. Mais avant, c'est le porte-parole du gouvernement que nous allons interroger puisque la ministre de la Santé vient de décider de suspendre la commercialisation de l'Uvestirol D. Après la mort suspecte d'un nourrisson, pourquoi cette décision a-t-elle été prise, Stéphane?
Elle a été prise parce que vous l'avez dit, il y a eu la mort d'un nourrisson. Et d'après ce que je comprends de la décision qui est prise suite à un avis de l'ANSES, c'est que c'est pas la vitamine D en soi qui est là pour lutter contre le rachitisme, permettre... de lutter aussi contre les problèmes de croissance, hein, donc qui était nécessaire.
C'est le mode d'administration.
C'est, semble-t-il, et je reste extrêmement prudent, le mode d'administration qui est remis en cause et qui nécessite qu'il y ait une précaution immédiate qui soit prise.
Le mode d'administration est contesté depuis 2006, donc il était temps.
Si nous sommes en 2016. Écoutez, vous rendez compte, quand vous posez cette question, vous sous-entendez que sur un sujet comme celui-là, tous ceux qui ont pu administrer de la vitamine D depuis 2006... et pris un risque à chaque fois qu'ils l'ont fait?
Peut-être.
Et c'est pour ça qu'il y a eu cette mort, mais de ce nourrisson, malheureusement, et qu'il faut prendre des décisions pour corriger les choses. Mais s'il vous plaît, sur ce genre de sujet, je comprends.
On ne peut pas poser de questions, c'est ça que vous
voulez dire? Si, mais la précaution qu'on prend aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé, on savait qu'il y avait potentiellement un risque, et ça a été dit par un médecin tout à l'heure. Et en même temps, la vitamine D, elle est absolument nécessaire. Bon, donc il faut prendre une décision de précaution, ça a été rappelé tout de suite. La ministre de la Santé l'a prise, je pense que c'était absolument indispensable au vu de ce qui s'est passé.
Et nous verrons, ça n'est pas forcément une mise en cause du gouvernement actuel, mais beaucoup de gens disent, tiens, pourquoi on a autant tardé à prendre cette décision?
Mais pourquoi? Parce
nous
que
verrons
dans chaque
jour prochain,
dans chaque...
si,
oui,
ce
attendez,
débat
monsieur, c'est très important,
pas, et s'il est légitime
dans chaque
ou pas.
Médicament oui. Qui est administré, il y a à la fois ce qu'il apporte comme avantage,
bien sûr.
Et souvent il y a un risque.
Bien sûr.
Et en fonction de ce qu'est l'avantage, le risque doit être le minimiser au maximum. Il existe, le médecin l'a dit tout à l'heure, tous ceux qui utilisent la pipette savaient, et même, il l'a rappelé, si vous prenez un Doliprane, vous pouvez l'avaler de travers. Donc, on a un risque. Et là, il y a un principe de précaution qui s'applique, mais ne nous mettons pas tout de suite dans cette situation qui consiste à dire, et alors, pourquoi on a attendu si longtemps? Ben pourquoi? Parce que ces médicaments sont aussi très utiles.
Et donc, en tout cas, la ministre de la Santé vient de décider la suspension de la commercialisation de ce médicament. Nous parlons maintenant de politique, Gilles Bornstein.
Vincent Peillon et Manuel Valls ont présenté hier leur proposition. Comme vous n'avez pas encore fait votre choix, je suppose que vous y avez été très attentif. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Oh, j'étais attentif, comme tous ceux qui s'intéressent bien sûr à cette primaire et qui regardent les propositions et le débat qui va commencer et s'engager. Mmh. Attentif à la fois aux lignes directrices qui sont celles qui sont proposées et puis au fait qu'il va y avoir quand même un débat sur un certain nombre de positions qui peuvent être différentes.
Et alors, qu'est-ce que vous en avez retenu, là?
En tout cas, j'ai retenu, moi, une chose. Mm-hmm. Je vous l'avais déjà dit, d'ailleurs. Je ne suis très clairement pas sur la ligne qui peut être incarnée par Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon, parce que là, je trouve que ça serait des lignes qui sont certes revendiquées depuis longtemps, hein, et qui ont été, d'ailleurs, beaucoup à l'origine de ce qu'on a appelé la fronde ou des frondeurs dans le débat pendant ce quinquennat.
Il en reste donc deux.
Il en reste deux. Sur ce sujet, moi, je vais...
Écoute-moi un peu plus, mais
oui,
deux.
Oui,
il reste deux, avec Vincent Peillon et Manuel Valls.
Nous sommes quatre intervieweurs, il y a sept candidats.
Sylvia Pinel, Jean-Luc Benavias et François de Rugy.
Enfin bon, il y en a deux, donc.
Donc, il en reste donc cinq.
Cinq.
Donc, je regarde tout ça. Moi,
Hier matin, la présentation de deux programmes, je ne sais pas, ça vous a créé une émotion particulière ou il s'est passé quelque chose hier matin?
Non, ça ne m'a pas créé une émotion particulière. J'ai vu que le débat était, pour le coup, engagé et que ça allait aller vite, puisque d'abord, cette primaire, elle est sur une durée qui est extrêmement courte. Donc, je vois bien que, pour ceux qui n'avaient pas encore présenté leur projet, il fallait le faire rapidement. Et d'ailleurs, ça va se succéder toute la semaine. Donc, moi, je vais répondre à la question qui m'a été posée. Pourquoi vous n'avez pas fait de choix? Et quel est votre choix? Je ne ferai pas de choix.
Ah, vous posez la question tout seul.
Mais oui, parce que je vais l'anticiper.
Dit,
et je vais éviter
raison,
comme ça d'avoir quatre fois la même question. Ouais. Donc je ne ferai pas de choix jusqu'au premier tour.
Ah,
je
ne ferai pas de choix jusqu'au premier tour.
Voilà.
Donc vous ne
voterez
pas au premier tour.
Est-ce que je peux J'anticipe justement parce que je sentais que ce matin j'étais invité et qu'il fallait que je réponde. Donc, je n'avais pas de choix. Je vais être en capacité aussi de pouvoir être utile au rassemblement. Et je pense que je choisisse ou pas n'apportera pas quelque chose de plus à celui ou à celle qui se présente aujourd'hui. La primaire doit être un enjeu de clarification et doit être capable de créer une dynamique politique.
Relance de Fabienne.
Il faut qu'on soit en capacité aussi de se rassembler.
J'ai pas bien compris. Vous votez au premier tour ou vous ne votez pas au premier tour?
Je vote au premier tour.
Vous allez choisir au premier tour.
Vous ne savez pas pour qui, mais vous choisirez au premier tour.
Ça veut dire que vous ne direz pas publiquement pour qui vous allez voter au premier tour.
Eh bien, dites donc, vous avez répondu à la question que je me pose.
Et si je peux me permettre, Stéphane Le Foll, quel courage.
Quel courage? Ah bon?
Quel courage de ne pas dire à votre vote? Vous êtes quand même un homme public, un ministre.
Jean-Michel Apathy, le courage qui consisterait à laisser penser que c'est en donnant son avis qu'on est courageux, franchement. Si on veut regarder l'histoire qui est la mienne, pour ce qui est du courage, je crois que j'en ai eu beaucoup plus que d'autres.
Non, je ne veux pas vous piquer, mais ce n'est pas courageux de ne pas dire pour qui on vote quand on est un homme public.
Pourquoi? C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu après le début de cette campagne, que je vois bien commencer, ça va être de se rassembler. Et il devra y avoir des personnalités politiques qui seront là pour rappeler à tout le monde que l'essentiel, c'est le rassemblement. Eh bien, je compte bien être là au moment où ça sera nécessaire.
Donc, ça veut dire que
je serai de toute façon, et je l'ai dit, courageux, mais au bon moment.
Donc ça veut dire que vous savez pour qui vous allez voter, mais vous ne le dites pas. Vous n'ignorez pas pour qui vous allez voter là au moment où
vous savez que ça arrive. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sont sûrement en train d'écouter et qui doivent d'abord peut-être douter sur leur vote et peut-être savoir ce qu'ils vont voter, mais qu'ils ne le disent pas. Je préfère ne pas le dire et que de toute façon ce débat ait lieu et de me mettre dans une position où quand il va falloir se rassembler, il y aura besoin de personnalités qui seront là pour le rappeler.
Voilà.
Et je serai là pour le rappeler. Le rassemblement est l'enjeu essentiel. D'ailleurs, après la primaire,
écoutez Fabienne,
comme au premier tour de la présidentielle.
Et on se retrouve dans 90 secondes, c'est ça qu'elle voulait dire Fabienne. Il est 8h40, voici Victor Maté.
Non, parce que je pensais que j'avais encore une question Fabienne.
Il n'y a pas de doute, l'auteur de l'attentat de la discothèque d'Istanbul est identifié, annonce le ministre des Affaires étrangères, sans donner toutefois son identité. Hier, les médias turcs avaient diffusé des photos et des vidéos du principal suspect recherché par la police. En France, la commercialisation de l'Uvestérol D est suspendue par précaution après la mort fin décembre d'un nourrisson, mais la ministre de la Santé Marisol Touraine se veut rassurante, aucun danger pour ceux qui ont reçu ce produit à base de vitamine D, c'est seulement son mode d'administration qui pose problème. L'autoroute A9 coupée en ce moment en direction de l'Espagne à hauteur de Saint-Jean-de-Védas au sud de Montpellier, c'est la conséquence d'un accident, au moins 2 voitures et 1 poids lourd, 11 blessés légers. La circulation à des TER devrait rester très perturbée entre Metz et Luxembourg. Aujourd'hui, une partie des contrôleurs exerce son droit de retrait après l'agression verbale d'une collègue suivie de menaces de mort. Des bus de substitution sont mis en place. Le maire de Saint-Nazaire veut éviter que Fincantieri devienne l'actionnaire majoritaire des chantiers navals STX. Il appelle donc l'État à bloquer la proposition du géant italien. Le secrétaire d'État à l'industrie, lui, est attendu sur place dans la journée. Les regrets du Mexique après la décision de Ford, le groupe automobile américain, sous la pression de Donald Trump, annule la construction d'une usine dans le pays. $1,5 milliard d'investissement qui reste donc aux États-Unis.
C'est Stéphane Le Foll qui est l'invité politique de France Info. Ce matin, question Gilles Bornstein.
Oui, dans sa conférence de presse hier, Manuel Valls a fait une proposition qui est de revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires. On l'écoute.
Je veux une société du travail qui reconnaît les efforts de chacun à leur juste valeur. Nous rétablirons la défiscalisation des heures supplémentaires.
Alors deux questions. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Et si oui, c'est quand même un aveu de... C'est une critique de ce qu'a fait votre gouvernement, enfin celui de Jean-Marc Ayrault en l'occurrence.
En tout cas, je me souviens très bien des débats qui ont précédé la prise de cette décision. Elle n'a pas été prise par hasard. Cette décision a été prise avec l'analyse suivante. À un moment où on avait plus de 10% de chômage, le fait de subventionner les heures supplémentaires, alors qu'on a des chômeurs, c'était de ne pas se donner les moyens de favoriser l'emploi. C'était ça la décision.
Bien sûr.
C'était cette décision qui a été prise. Et c'est pourquoi elle a été prise.
C'était pas pour ennuyer Nicolas Sarkozy.
C'était pas pour ennuyer Nicolas Sarkozy. C'était d'ailleurs, je crois que sur ce sujet, ensuite, il y a eu pas mal de discussions. C'était le fait de se dire, dans un moment où le chômage est en train d'augmenter, et il avait augmenté, okay, il a continué d'augmenter.
Aujourd'hui.
Subventionné à hauteur de 3 milliards et demi, les heures supplémentaires, c'était favoriser les heures supplémentaires plutôt que l'embauche. C'est ça qui a conduit à cette décision.
Et là,
bon, alors maintenant, aujourd'hui, de dire qu'on revient dessus, il faut bien réfléchir, hein.
Il a dû réfléchir.
Que derrière, on est en train d'inverser une courbe du chômage, mais ça vient juste de commencer. À partir du moment où vous subventionnez les heures supplémentaires, vous favorisez plus l'heure supplémentaire que l'embauche. C'est la seule question qui doit être posée.
Donc, vous n'êtes pas d'accord?
Moi, je trouve que sur ce sujet, je vous donne toute la réflexion qui avait été conduite.
Mais vous n'êtes pas d'accord avec Manuel Valls. Vous ne le remettriez pas si vous étiez...
Je ne suis pas candidat.
Non, mais ça ne vous paraît pas être une bonne idée.
Je vous ai dit pourquoi.
Moi, j'ai quand même ne pas soutenir j'en reviens à votre choix, pas soutenir celui qui a été votre premier ministre depuis maintenant, je crois, 2 ans et demi. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est quand même un signe de défiance, enfin de manque de confiance.
Non, c'était ce n'est pas un signe de défiance. Manuel Valls est candidat. Il y a une primaire qui s'engage. Il y a un débat qui va s'organiser. Chacun a vu les propositions hier. C'est un moment important parce que de cette primaire, on doit sortir avec une dynamique. Et la dynamique, elle est d'abord contre l'extrême droite et contre la droite.
C'est un manque d'enthousiasme, quand même.
Et je l'ai dit, je ne suis pas...
Si les ministres ne soutiennent pas l'ancien Premier ministre, ce n'est pas terrible.
Attendez, moi, j'ai suffisamment soutenu tout le monde en tant que porte-parole du gouvernement, quelles que soient les situations, quelles qu'aient été les positions...
Même quand c'était difficile.
Même quand c'était difficile, monsieur Apathy. Donc là-dessus, s'il vous plaît, je ne veux pas avoir de leçons à recevoir de quiconque.
Allez.
Et je ne crois pas que j'en mérite. Donc aujourd'hui, je me positionne dans cette idée qu'il y aura besoin nécessairement d'un rassemblement après ce débat. Et je serai là pour le rappeler. Et sur la question que vous m'avez posée, je vous ai dit ce qui s'était passé à l'époque. Comment on a décidé.
C'était à l'époque. François Fillon, de son côté, a fait sa rentrée hier soir.
Oui, j'ai vu.
Au 20h de TF1, vous connaissez bien François Fillon, c'est un voisin, vous êtes sartois tous les deux. Nous écoutons François Fillon hier soir sur TF1.
Je vais mettre en œuvre le programme sur lequel je me suis engagé.
Vous n'êtes pas frappé que de nombreux hommes politiques parlent de brutalité.
Et personne ne m'en détournera. Pourquoi ? Pas par obstination. D'ailleurs, il n'y a rien de brutal dans ce programme. Simplement parce que c'est le seul qui peut permettre le redressement national.
Est-ce qu'on peut dire de François Fillon qu'il est le favori de l'élection présidentielle aujourd'hui ?
Moi, ce qui me frappe, c'est que après une primaire qui a été réussie et qu'il a emporté de manière large, il y a un véritable doute. Alors que normalement... Quand je me souviens de celle de 2011, après la désignation de François Hollande, on voyait bien que le match allait se jouer entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et là, il y a un doute. Parce que le doute, il est sur le programme. François Fillon dit qu'il va le mettre en place, son programme, et il souhaite qu'il y ait un débat sur le fond. Donc je vais prendre deux propositions qui sont faites dans son programme pour bien montrer l'enjeu.
Rapidement.
500 000 suppressions de fonctionnaires, plus 100 milliards de réduction de la dépense publique, pour moi, de manière très simple, ça fera de la récession et donc plus de chômage. Quoi qu'il en dise. Alors après, il peut imaginer que après une
dépression,
une telle
purge
ou de telles mesures, on pourra redresser le pays. Mais moi, je le dis, 500 000 suppressions de postes, parce que c'est quand même ça. 500 000 suppressions de postes en 5 ans dans la fonction publique, plus 100 milliards de réduction de la dépense publique, c'est égal récession. C'est sûr.
Qui peut battre François Fillon, selon vous ?
Alors, la question qui est posée, c'est, qui peut le battre ? C'est d'abord un programme qui va répondre aux enjeux des Français et qui sera un programme qui protège contre ce que propose François Fillon et ce que propose aussi, bien sûr, je ne l'oublie jamais, Marine Le Pen. Donc on est sur un modèle républicain, on est sur un enjeu européen et on est sur la défense d'un modèle social français. Voilà ce qui doit être la ligne directrice pour le candidat de la gauche. Et condition de la victoire, c'est le rassemblement.
C'est pas 500 000 postes plus 100 milliards, hein, c'est 100 milliards de baisse de
dépenses. Bien sûr, c'est les deux.
Qui occasionne...
Oui, en termes économiques, discuterai avec tous les économistes, 500 000 comme objectif,
non,
plus 100 milliards.
C'était pour
100 milliards sur 5 ans, ça veut dire que dès la première année, c'est 20 milliards d'économies de dépenses publiques.
Dans la scène politique telle qu'elle est devant nous, on a l'impression que face à François Fillon, au fond, le candidat socialiste pèsera peu, des difficultés à se qualifier pour le second tour. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut être un candidat susceptible d'accéder au second tour, d'après vous ?
Mais l'accession au second tour, elle va être avec une équation assez simple. S'il y a trois blocs
à gauche,
oui. La capacité à dépasser les 23, 24, 25%
est nulle. Voilà. Mais il y aura trois blocs à gauche. Enfin,
mais soyons, soyons réalistes.
Il y aura trois blocs à gauche.
Donc il faut qu'on soit réaliste, en capacité de réussir une primaire pour qu'elle crée une dynamique avec un rassemblement fort.
Vous y croyez vraiment?
Pour
vous
pouvoir faire en sorte qu'on ne soit pas dans cette situation.
Et si à la fin, enfin quelques jours avant le premier tour, la dynamique elle est chez Macron, vous faites quoi?
Ben, écoutez, chaque étape d'un processus politique nécessite qu'on franchisse les étapes les unes après les autres.
Vous êtes en train d'anticiper, je suis d'accord.
Mais oui, mais vous êtes en train d'anticiper, mais c'est toujours pareil. Est-ce que vous savez que vous avez besoin d'anticiper ce qui pourrait se passer pour avoir des réponses qui permettent de faire des commentaires sur ce qui pourrait se passer? Ce qui va se passer, on ne sait pas. On essaye de s'organiser pour faire en sorte que ce que vous évoquez comme question ne se passe pas. Voilà. C'est tout.
Nous, on est là pour vous demander ce qui se passe.
Comment va François Hollande?
Comment? On me pose à chaque fois la question.
Pardon, désolé.
Parce que je suis...
Vous le connaissez bien. Puis j'ai un souci d'humanité. Ça me touche.
Moi, je peux pas dire autre chose que moi, je l'ai vu et que c'est, qu'il va bien, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Il regrette pas la décision qu'il a prise.
Il n'a pas pris de platine.
Lui poser la question. Moi,
il a pas à vous qu'on la pose là.
Oui, mais écoutez, vous me posez des questions qui consistent à ce que je sois un interprète de ce que pense François Hollande, président de la République. Je comprends qu'à chaque fois on me dise, comme vous êtes très proche et que vous le connaissez très bien, voilà.
Comme vous ne répondez pas aux questions auxquelles je peux répondre.
Ou auxquels j'ai envie de répondre, d'ailleurs, aussi.
Oui, c'est ça. C'est plutôt ça, à mon avis.
C'est plutôt ça. Mais ça peut arriver.
Oui, c'est ça.
Vous avez remarqué.
On l'a. Mais il en reste encore des questions à poser. Donc on verra bien ce qui se passera dans les 7 minutes qui viennent. 8h50, Victor Mattet sur France Info.
Les autorités turques annoncent avoir établi l'identité de l'auteur de l'attentat de la discothèque d'Istanbul. Sans plus de détails, l'homme est toujours en fuite. Hier, plusieurs médias avaient diffusé des photos et des vidéos du principal suspect recherché par la police. En France, le début aujourd'hui d'une campagne exceptionnelle de vaccination contre la méningite sur le campus de Dijon. 30 000 personnes vont se faire vacciner par précaution après la mort récente de deux étudiantes. Marisol Touraine se veut rassurante. Pas de danger pour les bébés ayant reçu de l'Uvestérol. La commercialisation de ce médicament à base de vitamine D est suspendue par précaution, annonce la ministre de la Santé après le décès d'un nourrisson à fin décembre en lien avec cet Uvestérol D. Le procès aujourd'hui à Nice d'un agriculteur de 37 ans jugé pour avoir aidé des migrants, des étrangers en situation irrégulière dans la Roya à la frontière avec l'Italie. Il ne regrette rien, je préfère être enfermé et avoir la tête libre en prison. Contrôlé pour excès de vitesse la semaine dernière alors qu'il transportait une patiente en détresse respiratoire à l'hôpital. Un ambulancier de Poitiers porte plainte. Il avait continué sa route malgré la demande des policiers. L'un d'eux avait même sorti son arme. Et puis à 105 ans, le nouveau défi de Robert Marchand, le plus vieux cycliste au monde, va tenter de battre cet après-midi un nouveau record du monde de vitesse dans sa catégorie en parcourant au moins 22 km en une heure.
Stéphane Le Foll avec nous ce matin dans l'émission politique de France Info. Question Jean-Michel Apathy.
Le chantier naval de Saint-Nazaire STX est en passe d'être repris par l'armateur italien Fincantieri. L'État est actionnaire à 33% de ce chantier. Et le maire socialiste de Saint-Nazaire au micro de France Bleu, Loire Océan, un appel au gouvernement. Ne permettez pas cette transaction. On écoute David Samson.
L'État français peut bloquer cette proposition, peut construire une proposition complémentaire. Il est encore temps possible de la travailler, et y compris l'État français peut peut-être intervenir un peu plus qu'il ne le fait aujourd'hui sur l'actionnariat et donc sur des aspects financiers. Il y a des outils pour ceci, des CNS, la Caisse des dépôts et consignations. Bref, aujourd'hui, il ne faut rien exclure. Moi, je considère que la partie n'est pas perdue.
L'État français peut bloquer la reprise du chantier par l'armateur italien Fincantieri. Le fera-t-il?
Nationaliser ce qu'il demande, c'est-à-dire prendre le part.
Oui, j'ai bien entendu. Quel est l'enjeu? C'est que ce chantier qui... des commandes qui sont largement remplies pour les 5 ou 10 ans qui viennent, qui est un enjeu aussi de défense, qui est un enjeu aussi pour la construction de paquebots de grande taille, avec un problème, l'actionnaire coréen, qui était celui qui existait aujourd'hui, tombe dans la situation, une défaillance STX catastrophique qui fait que...
Mais le chantier lui-même est rentable.
Le chantier lui-même est rentable. On est toujours sur le même sujet. C'est qu'un chantier rentable et une activité industrielle rentable nécessitent des financements pour pouvoir assurer son développement. Bon. Donc l'État va agir. Qu'est-ce qu'on veut?
Qu'est-ce qu'il veut faire?
Mais l'État, c'est très simple, c'est qu'on a un chantier qui est un des plus performants au niveau mondial, avec un savoir-faire qui nous met en position de compétitivité sur l'ensemble de la planète et sur des segments extrêmement précis, je l'ai dit, sur les grands paquebots de luxe et de croisière, et aussi...
Mais il va agir comment, l'État?
Mais vous avez surtout 33%, donc qu'est-ce que vous bloquez avec vos 33%?
On est actionnaire, donc alors, l'État posera des conditions. Les conditions, c'est la pérennité de l'activité, la sécurisation des savoir-faire et la capacité de se projeter dans l'avenir. Et
ne faut-il pas être plus violent? Donald Trump, qui n'est même pas encore président, vient de dissuader Ford d'investir au Mexique, laquelle Ford rapatrie une partie de l'investissement prévu dans le Michigan aux États-Unis. Finalement, les menaces et le protectionnisme, eh bien, on a l'impression que ça marche.
Oui, mais ça, c'est sur un sujet. Il faut regarder une économie aujourd'hui de manière plus large. J'attends de voir. Oui,
Prenez
un exemple. Vous me dites, regardez, ça marche formidablement bien. J'attends de savoir ensuite ce que seront aussi les conséquences de telle et telle décision sur les exportations américaines vers le Mexique. Moi, j'ai connu des sujets sur des moments de débat entre l'Europe et la Chine et les conséquences que ça pouvait avoir sur des exportations.
En attendant, ça fait 700 emplois dans le Michigan.
Oui, mais on peut tout à fait avoir des stratégies. Faut-il qu'elles soient globales? Vous pouvez avoir les 400 emplois sur Ford dans le Michigan et en perdre d'autres ailleurs. C'est le solde, c'est la capacité qu'on a à avoir une économie de manière globale qui crée de l'emploi et qui se développe, qui est intéressante et qui est importante. C'est pas simplement un sujet pris au hasard, ou comme peuvent le penser par exemple Arnaud Montebourg qui dit, il suffit de dire 80% des marchés publics doivent être réservés aux industriels français et on aura réglé le problème de la mondialisation et de l'industrie française. Ben non. Je suis désolé de le dire. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, attention à ces sujets qui consistent à simplifier. Et sur un exemple, il y a eu aussi des rapatriements de Chine vers la France, d'entreprises. J'en ai vu. Et c'est tant mieux. Et il faut qu'on les encourage. Et il faut qu'on soit capable aussi d'avoir une politique commerciale au niveau européen qui arrête aussi de laisser penser que c'est uniquement en ouvrant les marchés qu'on va développer l'économie. C'est
pas vrai. Autre sujet, Cédric Herrou sera jugé cet après-midi à Nice pour avoir aidé des migrants en situation irrégulière. Alors selon vous, c'est un délinquant ou quelqu'un qui a juste fait preuve?
On va peut-être l'entendre.
On va l'écouter.
Avant, oui, Cédric Herrou.
Au micro de Gaël Joly de France Info.
Exact.
Moi, j'ai envie de demander au procureur qu'il m'explique concrètement ce que j'ai fait de mal vraiment. Moi, je veux bien être jugé, mais j'ai envie aussi que les pouvoirs publics soient jugés aussi. Moi, je préfère être enfermé, avoir la tête libre en prison, que à vivre comme monsieur tout le monde, en fermant les yeux, mettant les œillères. Moi, les œillères, je ne les mettrai pas en tout cas.
Alors, quelqu'un qui a fait un geste humain ou un délinquant? Il est jugé aujourd'hui.
Non, on ne va pas résumer ça entre un délinquant, donc monsieur le ministre, ou c'est un geste humain. Il a fait un geste humain et un geste militant qu'il assume, puisqu'il le dit lui-même, je préfère vivre libre et en assumant. Mais un État a aussi une responsabilité. La responsabilité, c'est de faire respecter ce qu'est le droit d'asile et la capacité qu'on a à accueillir des migrants. Je rappellerai, dans notre département de la Sarthe, les migrants qu'on a accueillis aujourd'hui et que j'ai été voir à plusieurs reprises pour voir comment ça se passe, la capacité qu'on a à les intégrer, à les insérer et à faire en sorte qu'ils aient cette capacité à trouver en France un vrai projet de vie. Et donc un État qui prend ses responsabilités et qui ne peut pas laisser faire des choses qui ne sont pas conformes aux lois et aux règles qui s'appliquent ici en France. Donc le droit d'asile est un droit qui doit être absolument respecté. Oui, mais... L'immigration irrégulière, si on considérait qu'à chaque fois que quelqu'un arrive et que de toute façon on a un devoir, c'est ce qu'il dit, de l'accueillir, à ce moment-là, on aurait de gros problèmes pour pouvoir le faire dans des conditions qui permettent justement que cet accueil débouche sur un projet de vie.
Donc,
c'est ça la différence.
De Cédric Herrou démarre cet après-midi.
Le procès, c'est sur l'application des règles et de la loi. Alors, j'ai pas en tête exactement ce qui se passe. Il a une position militante que je respecte. J'en fais pas un délinquant pour autant. L'État soit en procès. Parce que le procès de l'État, c'est ce que je vous l'ai dit. L'État a une responsabilité. Tout le monde. Pas que pour lui.
Monsieur
pour
le dernière question, Guy. Serez-vous candidat aux législatives?
Oh, il y a de fortes probabilités pour que je sois candidat aux législatives. Ouais.
D'accord, donc ça c'est au mois de juin, donc vous serez candidat dans la Sarthe. J'ai une dernière question.
Je ne bouge pas, moi je vous signale que là aussi je vais avoir quelques années, j'ai jamais bougé de la circonscription dans laquelle j'habite.
Oui, alors que François Fillon a déménagé.
Jamais bougé depuis 56 ans, je ne devrais pas le dire, de la 4e circonscription de la Sarthe.
Vous n'êtes pas élu depuis 56 ans, mais vous avez 56 ans.
J'ai été élu la première fois à 23 ans dans mon petit village à Londres.
J'ai une dernière question.
Canton de Loué, 4e circonscription.
Pour qui vous allez voter à la primaire, les socialistes?
Très bonne question,
Jean-Michel Vatine.
Bonne journée, allez, merci, au revoir.
On dirait que la boucle est bouclée, merci beaucoup.